C'est l'heure de la diffusion des conférences de l'IRD, Institut de Recherche et Développement. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Jean-Christophe Galipeau. Il est architecte, chargé de recherche IRD dans l'unité patrimoine locaux et nous embarque sur les traces des rescapés de l'expédition La Pérouse. Bonne écoute.
Aujourd'hui, je suis venu pour vous parler d'une île, assez particulière, Vanikoro. Une île maudite, et l'île qui a servi de tombe aux deux navires de l'expédition La Pérouse. Une île assez atypique. Déjà, elle se trouve dans un endroit de la Mélanésie, au sud de l'archipel des îles Salomon, dans une zone qu'on appelle l'archipel des Santa Cruz, qui est extrêmement isolée du reste de ces grandes îles, aussi bien des grandes îles des îles de Salomon que du Vanuatu. Ce sont des îles qu'on a pu atteindre qu'avec une très bonne connaissance de la navigation. C'est un peuplement récent et ce sont des îles qui ont été très tôt assez isolées. À l'époque où La Pérouse se promène dans ces régions-là, cette île de Nende est bien connue. Elle est bien connue depuis 1560 et 1590 parce que Mendana l'avait découverte et s'y est installé. Il est resté 6 mois à Nende. Ça s'est très mal terminé pour lui. Il est décédé là-bas et son campement a été attaqué, etc. et autres. Et ils ont fini par repartir tous. Mais donc il y a une présence très ancienne dans les Santa Cruz, et on connaît les îles Santa Cruz, nommées par les Espagnols, on les connaît depuis donc le XVIe siècle, ce qui fait que les Santa Cruz sont sur les cartes. Les Santa Cruz, c'est Nende, les îles Reef, etc. autour, Vanikoro n'avait jamais été découverte, ni par les Espagnols, ni plus tard. C'est une île très spéciale aussi, Vanikoro, parce que c'est une île volcanique. Bon, bien sûr, toute cette chaîne d'îles est volcanique, mais elles le sont plus ou moins. Mais cette île de Vanikoro, qui est en fait un volcan, bon, il y en a deux petits à côté qu'on ne voit pas ici, elle a une particularité qu'elle est la seule à avoir dans cette région, c'est qu'elle a un récif extérieur, ce qu'on appelle un récif barrière. Donc, pour un navigateur comme La Pérouse, à l'époque de La Pérouse, essayant d'aborder une île volcanique, il savait a priori qu'il n'avait pas à craindre d'avoir une barrière corallienne avant l'île. Malheureusement pour lui, c'est la seule en Mélanésie. Elle n'était pas connue et c'est la seule à avoir ce type de barrière. La troisième originalité de Vanikoro, et c'est une originalité qui a probablement joué un rôle important dans le devenir des naufragés, c'est qu'il y a deux ethnies qui se côtoient à Vanikoro. Il y a les Mélanésiens qui sont les habitants de la Mélanésie, donc de toutes les îles de la Nouvelle-Guinée jusqu'en Nouvelle-Calédonie et à Fidji. Et il y a des Polynésiens qui habitent dans cette petite île qui se trouve à l'est de Vanikoro, qui s'appelle Tikopia. Les Polynésiens, donc, ce sont les habitants de l'est du Pacifique et du centre du Pacifique, les îles Samoa, les îles Tonga, et puis après, bien sûr, toute la Polynésie, ce qu'on appelle la Polynésie orientale, les îles de la Société, les Marquises, etc., Hawaï. Donc, certains de ces Polynésiens sont revenus à une époque ancienne vers la Mélanésie et se sont installés sur des petites îles. C'est le cas des Tikopiens qui sont installés à Tikopia. On pense qu'ils sont à Tikopia depuis 2000 ans. Ils sont très liés avec les habitants des îles Samoa, plus à l'est. Et ces Tikopiens, qui sont très à l'étroit dans leur petite île de Tikopia, une île où il n'y a pas toujours de l'eau douce, etc., ont tendance à essayer de coloniser les autres îles. Ils sont très présents aujourd'hui à Vanikoro. Il y a des villages de Tikopiens. Les populations sont très mélangées. On est même sûr maintenant qu'à l'époque du naufrage de La Pérouse, les Tikopiens connaissaient déjà Vanikoro et étaient déjà installés dans certains coins de Vanikoro. Alors, en quelques mots, je voudrais juste vous résumer l'expédition La Pérouse, étant entendu que ce n'est pas de l'expédition La Pérouse que je vais parler ce soir, c'est de ce qui s'est passé après le naufrage, hein, ce qui a pu arriver à ces naufragés et comment ils se sont débrouillés dans cette île au contact des Mélanésiens et des Éthiopiens. Donc l'expédition La Pérouse, c'est la dernière grande expédition scientifique organisée par la France, donc Louis XVI. Ils sont quittés Brest en 1785. Ils devaient revenir en France à la fin de 1788. On a perdu leurs traces à Botany Bay, la fin de donc le dernier endroit en fait où ils se sont manifestés, Botany Bay, où ils ont rencontré l'escadre du Commodore Philippe qui venait pour installer une colonie pénitentiaire dans ce qui est maintenant Sydney, Jackson Bay à l'époque. Leur trajet, leur voyage et leur exploration étaient extrêmement ambitieuses. On dit souvent que La Pérouse avait pour instruction de faire tout ce que le capitaine Cook n'avait pas fait, découvrir dans le Pacifique tout ce qu'il n'avait pas découvert. Ce n'est pas tout à fait vrai. Cette expédition emportait les meilleurs savants français de l'époque, de l'Académie des sciences entre autres, des gens jeunes, motivés, qui étaient très excités à l'idée de pouvoir aller étudier d'une façon précise et sur la durée des îles dont on savait déjà qu'elles recelaient beaucoup d'informations intéressantes pour comprendre le vivant, aussi bien la géologie que la nature ou l'homme. Ils sont partis de Brest, ils ont doublé le cap Horn, ils sont remontés donc dans le Pacifique, ils sont passés à l'île de Pâques, ils sont revenus vers l'Alaska. En Alaska, dans une baie qui s'appelle Glacier Bay, premier grand drame, en essayant de sortir de la baie avec deux chaloupes, parce qu'ils voulaient sonder la baie, faire une carte de la baie, ces deux chaloupes se retournent dans des courants contraires, et les deux équipages des chaloupes décèdent. J'ai oublié le nombre de morts, tu te rappelles peut-être, je crois que c'est 22, c'est ça, non ? Ouais. Autour de 22 morts, donc, et on était encore au début de l'expédition. Donc ça a porté déjà un grand coup au moral. Ensuite, ils sont descendus le long de la Californie, ils ont retraversé le Pacifique, ils se sont promenés le long des côtes de la Russie de l'époque, etc., redescendus par les îles Samoa avant d'atteindre Sydney. Et au Samoa, deuxième drame, un petit peu trop confiants dans une île où ils étaient déjà passés et où ils tenaient à s'arrêter de nouveau pour prendre de l'eau. Ils vont à terre sans prendre les précautions d'usage et se font prendre par surprise par les Samoans qui les attendaient cachés derrière la plage. Le commandant de l'Astrolabe décède, Fleurieu de Langle. Et aussi encore une bonne dizaine ou plus avec lui d'officiers, de savants, de marins. La Pérouse ne peut pas le venger, c'est marée basse, il ne peut pas s'approcher, c'est trop dangereux de s'approcher avec des chaloupes et autres, donc il décide de repartir en les laissant là-bas. Le reste seront ramenés en France beaucoup plus tard, un siècle plus tard. Et ce deuxième coup, on sait par les dernières lettres de La Pérouse qui ont été postées, pour ainsi dire, de Botany Bay, de Sydney, transmises aux Anglais pour qu'elles soient ramenées en France. On sait donc par ces lettres que ce deuxième coup du sort l'avait beaucoup atteint. Certains ont même dit qu'en arrivant à Sydney, La Pérouse était un vieillard, qu'il avait perdu la foi dans son voyage. Moi, j'ai du mal à y croire. Maintenant, on peut faire dire un petit peu ce qu'on veut à ces témoignages très limités qu'on a en fait de la fin de cette expédition. Toujours est-il que ça a quand même très certainement, déjà parce que le commandant d'un des deux navires n'était plus là, parce qu'il a fallu réorganiser les équipages, faire avec les gens manquants, etc., à la fin dans les derniers moments d'une expédition qui avait déjà duré 3 ans pratiquement, ça a dû être un petit peu difficile pour tout le monde. Donc, Botany Bay, mars 1788, il reste un mois, ils refont des chaloupes qui avaient été détruites donc, à Samoa, ils refont des vivres, ils se reposent, etc. Ils réparent un petit peu les navires et ils repartent pour rentrer par la voie qui était prévue, c'est-à-dire à travers les Salomon, on passe ici et on arrive dans les Moluques, qui était bien connu, l'endroit bien connu, avant de partir vers l'île de France, qui doit se trouver, l'île Maurice actuelle, qui doit se trouver quelque part par là. On ne les verra jamais à l'île de France. Vous connaissez la suite de l'histoire, donc on cherchera à les retrouver pendant longtemps, et ça sera beaucoup, beaucoup plus tard qu'on les retrouvera. Les seuls indices que nous ayons de la dernière partie de leur périple, c'est ici des pierres de l'Est, ce qu'on appelait des pierres de l'Est, parce qu'on les trouvait sur les épaves, dans une des épaves dont on sait que c'est la boussole aujourd'hui, qu'on a supposé être des pierres de l'Est. On a réalisé, en les étudiant plus précisément, que c'était des pierres calcaires, naturellement litées, donc ça c'est leur forme naturelle à peine taillée, et que ces pierres calcaires venaient de massifs qui se trouvent sur la côte est australienne, et en particulier dans la baie botanique, à Botany Bay. Donc on a d'abord pensé que pour une raison X ou Y, ils avaient été obligés de vider le lest d'un des bateaux et qu'ils avaient remis ça à la place. Et puis en continuant les recherches, on a eu la clé du mystère. Les officiers, en se promenant à Botany Bay, sur une pointe de la baie, ont trouvé un monument en pierre fait par les aborigènes, et ils ont décidé de ramener ce monument. Et voilà les pierres de ce monument, qui est très bien décrit par un officier dans une lettre. Donc la question qui se pose aussi après Botany Bay, c'est de savoir s'ils sont réellement passés en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites pour essayer de répondre à cette question, en particulier parce que l'association Salomon, qui depuis le début des années 80 dirige et organise toutes les recherches à Vanikoro sur les épaves de la Pérouse et avec qui nous avons travaillé, cette association donc est une association de Calédoniens, et donc ça, c'est pour eux une question importante. On n'a toujours pas de réponse aujourd'hui, on a des indices. En voilà un bel indice donc d'un appareil de mesure qui date de l'époque, qui a été retrouvé dans une case à l'occasion d'une razzia sur la côte ouest de Nouvelle-Calédonie, peu de temps après, au début du 19e, et qui pourrait tout à fait avoir appartenu à un des officiers d'un des bateaux de la Pérouse. Maintenant, ce n'est pas une preuve, parce que ce genre d'instrument a été utilisé pendant longtemps et était encore utilisé par les géomètres au début du 19e. Donc on ne peut pas être certain qu'il a bien été débarqué ou volé quand la Pérouse est passée. Donc qu'est-ce qui se passe ? Les deux navires arrivent près de Vanikoro, une île donc qui n'était pas cartographiée, qu'ils ne connaissaient pas, dans une région du Pacifique qu'ils pensaient connaître, parce qu'à partir, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure quand on regardait la carte, mais à partir des Salomon, ils avaient avec eux des très bonnes cartes des Salomon. Le seul piège qui restait sur leur route, en fait, c'était cette île inconnue des Santa Cruz. Toutes les autres étaient connues, c'était la seule qui n'était pas connue et pas positionnée. Donc ils sont approchés de cette île, probablement au cours d'une tempête. On verra tout à l'heure que c'est la façon dont les indigènes de Vanikoro racontent l'histoire. Ils cherchaient peut-être un endroit à s'approcher de l'île pour se protéger. Ils ne voient pas le récif barrière. Le premier bateau, la boussole, s'encastre dans le récif et coule tout de suite. Ça a probablement été très violent. Le second bateau, l'Astrolabe, qui était sûrement en arrière parce qu'il naviguait jamais de concert, il y avait toujours une certaine distance pour éviter justement ce genre de situation. Donc le deuxième longe le récif, croit voir une passe dans le récif, un endroit où le bateau va pouvoir rentrer à l'intérieur du lagon pour trouver les survivants. Malheureusement, cette passe est une fausse passe, c'est-à-dire qu'il y a bien une ouverture dans le récif, mais à la sortie, il y a un gros pâté de corail qui affleure à 3-4 mètres. Comme ces bateaux avaient un tirant d'eau de 6 mètres, l'astrolabe s'encastre sur ce récif. Qu'est-ce qui se passe après le naufrage? Pendant 40 ans, pas de nouvelles. Il y aura eu plusieurs expéditions qui vont être envoyées à la recherche de la Pérouse. La première, c'est d'Entrecasteaux. Il y en a eu d'autres après. On sait que d'Entrecasteaux est passé très près de Vanikoro. Il a même, sur une carte, mentionné, dessiné cette île qu'il a appelée, l'île de la recherche. Il décédera d'ailleurs un petit peu plus tard et un petit peu plus haut dans les Salomons. Son expédition se terminera aussi très mal. Les deux bateaux seront faits prisonniers à Batavia. La France était en guerre à l'époque avec les Anglais et les Anglais étaient alliés aux Hollandais qui avaient pris possession de Batavia. Et de ce que d'Entrecasteaux ramène du Pacifique, on ne verra pratiquement rien en France. Il faudra plusieurs années, presque une dizaine d'années, pour que les Anglais acceptent de rendre ce qu'ils avaient pris, c'est-à-dire tous les échantillons scientifiques, les cartes de Boutan-Beaupré, etc. Et malheureusement, après d'Entrecasteaux, il n'y aura plus vraiment de recherche pour essayer de comprendre ce qui s'était passé à Vanikoro. La découverte des épaves, c'est, on pourrait dire, une découverte fortuite. Moi, j'ai tendance à dire qu'elle n'est pas si fortuite que ça. C'est le capitaine Dillon qui a découvert les épaves de Vanikoro, disons qui a découvert le lieu du naufrage. C'était un petit capitaine, il y en avait beaucoup au début du 19e siècle. Dès que les îles s'ouvrent, dès que les grands navigateurs sont passés, dès qu'on commence à avoir des cartes à peu près correctes, il y a beaucoup d'aventuriers qui partent sur des petits bateaux. Ce sont vraiment des petits bateaux à voile, c'est des équipages restreints, c'est 2, 3, 4 personnes. Ils partent au milieu des îles pour essayer de faire fortune en allant chercher tous ces produits qui existent là-bas. C'est le bois de santal, c'est l'écaille de tortue, c'est tout ce qui est récupérable. En même temps que ces aventuriers, il y a aussi dans le Pacifique un certain nombre de blancs qui s'installent. Ces blancs-là, en général, sont moins recommandables. Ce sont les marins qui travaillent sur les navires baleiniers, ces navires qui partent des États-Unis et qui sillonnent le Pacifique après les baleines. Et c'est une vie très dure. Ce sont des gens qui partent pour 2-3 ans. Ils travaillent dans des conditions très difficiles. Et donc, il y a beaucoup de défections, il y a beaucoup de problèmes sur les bateaux. Quand un marin ne travaille plus comme on a envie qu'il travaille sur le bateau, on le lâche dans une île. Et il y a un certain nombre de ces marins qui vont soit déserter, soit être virés, laissés dans les îles du Pacifique, qui vont se regrouper. Et ce sont ces gens-là, en fait, qui vont réellement commencer à découvrir, à faire connaître le monde blanc aux gens du Pacifique. Ils se marient avec les filles des rois locaux ou des chefs locaux. Ils font les intermédiaires entre les locaux et ceux qui viennent pour chercher du bois de santal ou autre, etc. Et Dillon, il est un petit peu comme ça, en fait. Il se retrouve coincé avec un certain nombre de ses compagnons sur un petit endroit escarpé à Fidji, proche de la mer. Le capitaine du bateau, le capitaine Wilson, refuse de mettre une voie, bien qu'il est en difficulté. Il y a déjà eu plusieurs marins qui ont été massacrés. Il y a des centaines de Fidjiens qui sont en bas et qui sont prêts à leur faire la peau. Le capitaine Wilson refuse de mettre une chaloupe à l'eau parce qu'il a peur, que son navire soit attaqué. Et s'apprête à partir, et finalement, tel que le raconte Peter Dillon, il n'y a personne d'autre pour le raconter à sa place, donc Peter Dillon réussit à s'emparer d'un des chefs, et en mettant ce chef en joue, il réussit à aller jusqu'au rivage sain et sauf, et à rejoindre le navire ensuite sur une pirogue. Donc il quitte Fidji comme ça. Les personnes qui sont censées avoir vécu cet événement avec lui, c'est un Allemand, un Prussien, Bouchart, qui lui est un de ces ce qu'on appelle les beachcombers, donc quelqu'un qui avait été débarqué d'un bateau, probablement quelqu'un de pas trop recommandable, et une autre personne, on les appelait des Lascars, ce sont ces Indiens qui venaient travailler sur les bateaux, comme Mousse ou autre. Là, généralement, on ne connaissait pas leur nom, c'était simplement les Lascars. On les récupérait en Inde, on les payait très peu, et ils servaient de main-d'œuvre sur les bateaux. Donc, ces deux personnes, l'Allemand Bouchart et le Lascar Joe repartent avec Peter Dillon sur ce bateau, mais ne veulent pas retourner à Sydney. Eux, ils sont bien dans le Pacifique, ils sont intégrés et ils demandent à ce qu'on les laisse sur la première île qu'on voit. Et la première île qu'on voit, on est en 1817, c'est Tikopia, que Dillon ne connaissait pas. Donc il aborde à Tikopia, il dépose le Lascar Lascar Joe et Bouchard sur la plage en leur donnant quelques petits colifichets pour qu'ils puissent s'arranger avec les Tikopiens, et ils repartent. Et voilà le début de l'histoire. En 1826, après bien d'autres aventures, Dillon revient vers Tikopia et se dit, tiens, je vais prendre des nouvelles de mon copain Bouchard du Lascar Joe. Il aborde à Tikopia, ils sont tous les deux toujours là, ils ne le reconnaissent pas. Mais le Lascar Joe arrive sur le bateau avec un objet qu'il veut monnayer auprès des marins pour récupérer des hameçons, etc. Et cet objet, c'est ça. C'est une garde d'épée en argent. Quand Dillon voit ça, il comprend tout de suite de quoi il peut s'agir. Il va à terre, il mène une enquête extrêmement précise et minutieuse. Il récolte un certain nombre d'objets et il acquiert la conviction que tous ces objets proviennent des épaves de la Pérouse. On lui dit que ces objets viennent d'une île à côté qui s'appelle Vanikoro, telle qu'il la connaît, et donc il va tout faire pour aller à Vanikoro. Il ne va pas y aller tout de suite, il essaye d'y aller, les vents sont contraires, il essaye pendant une semaine de se rapprocher de Vanikoro, il n'y arrive pas, et finalement il décide de retourner à Pondichéry. À Pondichéry, il monte toute une expédition, réussit à se faire financer un bateau, il monte une vraie expédition de recherche et il revient en 1827 à Vanikoro, où, de nouveau, il enquête, etc. Il recueille beaucoup d'informations et énormément d'objets. Voilà. Les bruits vont vite dans le Pacifique. Dumont d'Urville a été envoyé par la France pour faire une expédition dans le Pacifique et on lui a demandé, on lui a dit, vous allez être dans le coin où la Pérouse a disparu, essayez d'enquêter encore, on est 40 ans après le naufrage, hein, d'enquêter au cas où il y aurait encore des survivants, on pourrait avoir des traces de cet homme. Il entend parler très vite de Dillon, de ce capitaine irlandais qui aurait vu des choses ou trouvé des choses. Il en entend parler en particulier à Hobart. Les seuls témoignages oraux dont nous disposions pour comprendre ou pour savoir ce qui a pu se passer à Vanikoro après le naufrage, ce sont les témoignages recueillis par Dillon et par D'Urville en 1826, en 1827. À l'époque, il y avait encore des personnes à Vanikoro qui avaient été témoins du naufrage. Mais recueillir ces témoignages n'a pas été une tâche très facile, très aisée. On comprend bien que pour quelqu'un comme Dillon, baroudeur, qui depuis plus de 15 ans se promenait dans le Pacifique, parlait le tahitien, etc., pour lui, il avait déjà une connaissance de ce monde-là, il savait comment traiter les gens, il savait comment les gérer. Pour D'Urville, c'était beaucoup plus difficile. La discussion était limitée au minimum. On a énormément de documents qui relatent le passage de D'Urville à Vanikoro parce que beaucoup d'officiers ont fait un journal et on a des informations assez précises sur la difficulté qu'ils ont pu avoir à comprendre ce que les gens leur disaient. Ils nous ont dit qu'il y avait trois navires qui se sont échoués là, un là et un là. Non, moi j'ai compris qu'ils avaient dit qu'il y avait deux navires, mais ils ne se sont pas échoués là, ils se sont échoués là-bas et là-bas. Et ça y allait comme ça. Et finalement, l'histoire que l'on connaît aujourd'hui en France, celle qui a servi à raconter les derniers instants de la Pérouse, c'est l'histoire officielle écrite par Dumont, sous la direction de Dumont d'Urville, dans son compte rendu de ce voyage. Dillon, lui, avant, avait probablement eu une approche que l'on pourrait qualifier de plus scientifique, mais Dillon avait un... disons que Dillon partait avec un problème au départ quand il a commencé à faire ses enquêtes, c'est qu'il il a enquêté avec un Tikopien, donc quelqu'un qui est venu de Tikopia avec lui, quelqu'un qu'il appelle Ratea. Et ce Ratea, on le sait maintenant, était le fils d'un chef de Samoa, très impliqué dans la colonisation de Vanikoro. C'est sa famille, c'est son clan en fait qui s'était installé probablement au moment de l'arrivée de la Pérouse ou peut-être avant, qui essayait de s'installer sur Vanikoro. Et on peut penser que Ratea n'a pas été toujours très objectif dans les traductions qu'il faisait à Dillon. Parce que Dillon, oui, pour entrer dans le détail, Dillon parlait le tahitien, donc comprenait le samoan. Le tikopien, c'est aussi une langue polynésienne, mais beaucoup plus ancienne que le tahitien, et donc plus difficile à comprendre, moins facilement intelligible pour quelqu'un qui parle le tahitien. Mais bon, il avait quand même cet avantage d'avoir une certaine idée de ces langues-là. Bon, toujours est-il qu'on a donc des témoignages qui sont d'un côté... pas forcément excellent parce qu'on se comprenait mal, de l'autre côté pas forcément très bon parce que raconté par des gens qui n'avaient peut-être pas intérêt à dire exactement la vérité à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils racontent ces témoignages? Ben, ils expliquent le naufrage, une nuit de tempête. On donne beaucoup de détails pour le naufrage. Hein. C'est une nuit de tempête, les arbres sont déracinés, il y a des maisons qui tombent, donc on sait qu'on s'imagine un petit peu en temps de cyclone. A priori, ça ne peut pas être un cyclone parce qu'ils sont vraisemblablement arrivés là-bas vers juillet-août. Et juillet-août, il n'y a pas de cyclone dans ces zones-là, ce n'est pas avant octobre-novembre. Mais peut-être sont-ils arrivés plus tard et ont-ils vraiment eu un cyclone. Toujours est-il qu'ils ont véritablement, très sûrement, approché Vanikoro pour se protéger d'une situation difficile en mer, et c'est ce qui a causé leur perte. Ce que les Mélanésiens et Éthiopiens disent aussi, c'est que il y a dans les jours qui suivent, il y a des cadavres qui viennent sur la plage. C'est probablement les gens qui étaient sur la boussole, puisqu'on sait que la boussole s'est complètement éclatée sur le récif. Il y a dû avoir beaucoup de morts. On imagine qu'une bonne partie de l'équipage de la boussole a disparu au moment du naufrage de la boussole. On sait, toujours par les témoignages oraux, qu'il y a à peu près 4 survivants de ce bateau qui sont arrivés bien au sud, bien plus au sud de l'île, et qui sont revenus à pied. Les gens voulaient d'abord les tuer parce qu'ils pensaient que c'était des esprits malfaisants, et ils leur ont donné quelque chose et ils les ont laissés partir. On sait que les Français ont installé un camp à terre dans un lieu que les gens décrivent. Ils disent, voilà, c'est ici, c'est à Payou, c'est à l'embouchure de cette rivière que Dillon appellera la rivière Lawrence, qu'ils ont établi leur camp. Ils sont restés ici un certain nombre de lunes, donc un certain nombre de mois, environ 6 mois. On donne des détails, ils étaient habillés comme si, ils mâchaient, ils travaillaient tout le temps. Ils se protégeaient, ils avaient des gens qui protégeaient, etc. Donc on a une description assez imagée et probablement assez vraie de ce que les Mélanésiens ont pu voir. Et puis on apprend aussi qu'il y a eu des combats, que ça ne s'est pas toujours passé facilement, qu'il y a eu que les Blancs ont massacré des gens dans l'île, que les gens ont tué des Blancs aussi, qu'un des bateaux a été attaqué et brûlé, et qu'il y a eu, que finalement tout le monde est parti, en tout cas tous ceux qui restaient, tout le monde est parti, sauf 2 personnes qui sont restées jusqu'à leur mort à Vanikoro. Pendant le 19e siècle, il se passe beaucoup de choses à Vanikoro en relation avec les épaves, mais les informations manquent. Et pendant très longtemps, pour nous, chercheurs, on ne savait pas du tout ce qui s'était passé à Vanikoro au XIXe siècle. On n'imaginait même pas qu'il se soit passé grand-chose à Vanikoro. Il y a un certain nombre de gens qui viennent à Vanikoro. Ce sont surtout des Français. Des Français ou des Anglais qui travaillent avec la France. Ce sont les colons, les premières personnes qui s'installent dans les Nouvelles Hébrides. Toujours pareil, ces précurseurs dont on parle rarement, ces gens qui prennent le risque d'aller s'installer, de faire des arrangements avec les chefs locaux pour récupérer le copra, pour récupérer le santal s'il y en a, pour commencer à vendre des marchandises, du fer, des armes, etc. Donc le commerce est naissant. Et parmi ces commerçants, il y en a un qui s'appelle MacLeod. C'est un Américain, en fait, fils de baleinier qui s'est installé en Nouvelle-Zélande et qui va d'abord venir en Nouvelle-Calédonie, puis plus tard aux Nouvelles-Hébrides. Il va monter un gros comptoir là et il va devenir un petit peu le chef local. Il aura plusieurs bateaux, il va aller partout, il ira jusqu'à Vanikoro. Et on sait aujourd'hui que MacLeod s'est beaucoup intéressé à l'histoire de la Pérouse. Au XIXe siècle, la Pérouse, on a oublié l'histoire, on sait ce qui s'est passé, on a oublié, mais ce qu'on n'a pas oublié, c'est qu'il y a des gens qui sont restés là-bas. Et donc, commence à circuler dans le Pacifique, dans ces milieux un petit peu interlopes de ces aventuriers du Pacifique, l'idée que les marins de la Pérouse, avant de mourir ou avant de partir, ont caché un trésor à Vanikoro. Et pendant tout le 19e, autour de MacLeod, il va y avoir un certain nombre de gens qui vont aller à Vanikoro pour essayer de trouver ce trésor. Et évidemment, comme ils cherchent tous le trésor, ils ont tous leurs trucs, leurs machins, leurs informations, ils n'en parlent à personne. Et jusqu'à aujourd'hui, on a extrêmement peu d'informations sur ce qu'ils ont fait à Vanikoro pendant le 19e siècle. On sait qu'ils y sont allés, on sait qu'ils ont trouvé des choses, en particulier MacLeod, qui est arrivé à Sydney un jour avec 500 pièces d'argent espagnol qu'il a revendu pour se payer du matériel de plongée, un scaphandre. C'est quand même pas anodin. Il a raconté que ces pièces, il les aurait trouvées sur une plage à Malicolo. Malicolo, c'est une île des Nouvelles Hébrides, mais quand on entend Malicolo, on ne peut pas s'empêcher de penser au Manicolo de Peter Dillon, qui va devenir Vanikoro après. Et il est évident aujourd'hui que c'est bien à Vanikoro qu'il a trouvé ces pièces. D'ailleurs, ces mêmes types de pièces espagnoles que la Pérouse avait récupérées en Californie, on en a trouvé, nous, quand on a fouillé plus tard le camp des Français. Donc, il y a toute une partie de l'histoire qui nous échappe. Là, on commence à entrevoir ce qui a pu se passer quand la Kaori Timber s'installe. Et c'est ce que vous avez là, ici, sur cette photo. Vous avez ici le premier camp de la Kaori Timber Company. Et ce camp, où est-il? Il est dans la baie de Paillou, sur les lieux du camp des naufragés de l'expédition La Pérouse. Pourquoi? Parce que sur cette côte sud, Paillou, c'est la seule baie qui est accessible, c'est la seule baie où il n'y a pas trop de mangroves, c'est-à-dire qu'on peut arriver sur une plage directement avec une chaloupe ou autre, et puis il y a une rivière permanente qui coule, donc il y a de l'eau douce en permanence. Donc, toutes ces découvertes, évidemment, du 19e siècle, comme je vous le disais, elles ont été gardées secrètes. Il y a eu des rumeurs qui ont couru. On a eu vent de quelques informations, mais qui ne voulaient pas dire grand-chose. Et pour nous, historiens du 20e siècle, intéressés, donc avec l'association Salomon, intéressés à comprendre ce qui s'était passé à Vanikoro, eh ben, la question principale, en dehors de la fouille des épaves, c'était de savoir s'il y avait vraiment eu un camp de rescapés, c'est-à-dire s'il y avait vraiment eu des rescapés. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, et c'était une information capitale, Dillon et Durville, on leur a dit qu'il y avait un camp des rescapés à Paillou, on leur a indiqué l'endroit où était ce camp, mais ils n'ont rien vu, ils n'ont rien trouvé. Ils étaient 40 ans après le naufrage et il n'y avait rien, aucune trace de ce camp. Donc on pouvait réellement douter qu'il y ait vraiment eu des rescapés. On pouvait tout à fait imaginer, et on l'a imaginé, que les naufragés aient été massacrés très rapidement et que pour cacher ce massacre, pour de, 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 de peur de la réaction de ces Blancs qui venaient enquêter et qui venaient poser des questions sur ces marins qui étaient passés 40 ans avant, qu'on leur a raconté n'importe quelle histoire. Ils sont restés ici, ils sont repartis en vitesse. Voilà. C'est un petit peu notre état d'esprit. Donc, quand on a décidé de refaire des recherches à terre pour trouver... pour essayer de localiser ce qu'ont les Français. Donc évidemment, ces recherches, on les a faites à Paillou, puisque tout le monde disait que c'était à Paillou. Il y a d'abord eu un certain nombre d'expéditions organisées par l'association Salomon en 1986, puis en 1990, où à chaque fois, des archéologues ont essayé à terre, en faisant des sondages, en cherchant de trouver des traces du camp, sans résultat. Et en 1999, on a décidé de faire une dernière expédition. Cette dernière expédition a été couronnée de succès, puisqu'on a découvert le lieu du camp. En fait, on a découvert les restes du lieu du camp, ceux qui n'avaient pas été pillés au XIXe siècle par ces chercheurs de trésors. Et ce qui nous a permis de dire que nous avions découvert ce camp, ce sont ces objets-là ici. Donc ce pied du roi que vous voyez ici, c'est voilà, entre les mains de Titus, une personne des îles Torres, donc au sud de Vanikoro, qui travaillait avec moi au Vanuatu et que j'ai amené à Vanikoro. Donc voilà un pied du roi, une règle, avec un bougeoir, des boutons d'uniforme, un petit canon de méridienne ici, des balles de mousquet, tout ça dans une toute petite zone qui montrait, ça montrait bien que à cet endroit-là, on avait les restes de quelque chose qui était assez organisé, en fait, qui n'avait pas trop bougé, qui n'avait pas été pillé, une petite zone qui avait été miraculeusement préservée. Donc, en 2000, on retourne à Vanikoro parce qu'on avait, évidemment, en 99, les bonnes choses arrivent toujours à la fin. En 1999, on était là pour un petit peu plus d'un mois. Le camp, on l'a trouvé dans les derniers jours. Donc il a fallu essayer de fouiller le plus rapidement possible ce qu'on trouvait. On avait peur que le lieu soit pillé après notre départ. Et on a décidé de revenir en 2000, donc le plus rapidement possible, pour essayer de terminer la fouille du camp. Et effectivement, en 2000, donc vous le voyez ici, le camp des Français, il est pas très loin du bord de mer, dans cette végétation très dense, qui est une végétation secondaire de zones de jardin. Et comme vous pouvez le voir, les vestiges sont très profondément enfouis. On est tellement profondément enfouis qui sont aujourd'hui sous le niveau de la nappe phréatique, c'est-à-dire que quand on creuse, on a l'eau qui monte dans les carrés de fouilles, et en fait, on est obligé d'avoir des pompes qui circulent en permanence pour dégager le fond et trouver les objets, ce qui ne facilite pas du tout la fouille, mais ce qui a permis de retrouver des poteaux qui avaient été planté à l'époque de la Pérouse. Pourquoi à l'époque de la Pérouse ? Parce que la fouille du camp nous a permis de comprendre ce qui s'était passé à Paillou, et elle, du même coup, nous a permis de comprendre pourquoi ni Dillon ni Durville n'avaient vu quoi que ce soit dans cet endroit qui avait été occupé 40 ans auparavant. Vanikoro, je vous le disais au tout début, est une île volcanique. C'est une île qui est dans la zone de formation des cyclones. C'est une zone qui est tectoniquement instable, c'est une île qui s'affaisse, il y a des tremblements de terre, c'est un milieu qui peut changer très rapidement. Et c'est ce qui s'est passé après le passage des naufragés. Il y a probablement eu des très fortes précipitations, peut-être associées à un cyclone, à un gros cyclone. Ces précipitations ont entraîné des éboulements dans les pentes du volcan qui se trouve à l'arrière de la baie. Ce sont des pentes très fortes qui ont été charriées par la rivière Lawrence et qui ont recouvert toute cette zone de bord de mer. Il y a pratiquement un mètre de sédiments fluvial, comme ça, qui s'est accumulé sur le camp des Français. Et depuis, ce camp s'est enfoncé, l'île s'est enfoncée, elle continue à s'enfoncer. Nous, on la voit entre 1990 et 2008, la dernière expédition, on a pu mesurer que la côte avait reculé d'à peu près 50 cm à 1 mètre suivant les endroits. Il y a un monument qui avait été érigé à la mémoire des naufragés à Paillou, qui a disparu dans l'eau, toujours du fait de cet affaissement. Donc tous ces phénomènes assez rapides ont contribué à la disparition de l'endroit où s'étaient installés les naufragés. Après 2000, on avait fouillé donc une petite zone. On arrivait un petit peu au bout de tout ça. On trouvait plus trop d'objets. On avait vraiment l'impression d'avoir fait le tour. Mais on était un petit peu frustrés parce que dans ce camp, finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé beaucoup d'objets cassés. On a trouvé des zones où il n'y avait plus rien. C'était les zones qui avaient dû être fouillées à la pelle par nos chercheurs de trésors MacLeod et compagnie au 19e siècle, où les gens de la Kaori Timber qui s'étaient installés dessus après, qui ont aussi mis du ciment, qui ont mis des tas de choses, donc on s'y retrouvait plus de trop. Et puis, on espérait, depuis le début, on espérait trouver la tombe du dernier naufragé, puisque les traditions ont toujours dit que ces deux Français étaient morts et avaient été enterrés sur place à Paillou. Donc en 2003, on est revenu avec des moyens beaucoup plus sérieux, des magnétomètres, etc., des moyens géophysiques donc, qui permettent de sonder la Terre sans avoir besoin de creuser partout, parce que creuser partout, ça serait une tâche immense, c'est quand même très grand, c'est plusieurs hectares le périmètre de la zone du camp. Donc on a quadrillé toute la zone avec ces appareils pour essayer de retrouver cette tombe. Sans succès. On n'a pas désespéré. On est revenu encore en 2005. En 2005, on est arrivé avec des appareils encore plus sophistiqués. Bon, là, c'est un magnétomètre, ça, c'est un détecteur de métal. Mais on avait aussi des gros magnétomètres, des radars à effet de sol, etc., pour ceux qui connaissent. On a cartographié une fois de plus toute la baie. On a aussi cartographié tout le sable recouvert à marée haute pour essayer de trouver des choses, canons ou autres. Qui date de l'installation du camp des Français. Malheureusement, les conditions de fouille de ce genre d'objet dans une baie où il n'y a pas beaucoup d'eau, mais suffisamment pour qu'on ne puisse pas fouiller à la pelle, c'est extrêmement compliqué, extrêmement coûteux. On a essayé, on n'a jamais réussi à aller jusqu'à ces objets qui sont enfouis à au moins 2 mètres dans le sol, voire plus. Voilà. Donc les dernières trouvailles, ça a été des gros morceaux de plomb, des restes de coques protégés par des plaques de cuivre. Cela n'a fait pour nous que confirmer ce que l'on savait déjà en partie, c'est que dès le 19e siècle, quand les gens viennent pour fouiller ou autre, ils laissent des embarcations dans la rivière. La Kaori Timber, quand elle arrive avec des vieilles embarcations, pour pouvoir traverser la rivière et autres. Et toutes ces embarcations vont pourrir dans la rivière et sur le côté et vont se mélanger au reste du camp des Français. Donc, le camp de Paillou, qu'est-ce que c'est en quelques chiffres? 4 à 5 hectares prospectés pour trouver le camp, 350 à 400 mètres carrés fouillés pour une zone habitée qui n'a probablement pas dépassé 100 mètres carrés. Les preuves matérielles de cette installation, de ce camp, quelles sont-elles ? Plus de 3500 fragments, beaucoup de vaisselle, des fragments d'armes, des fragments d'instruments de mesure, des boutons qui nous montrent qu'il y avait des habits. Il y a deux endroits où on a trouvé plusieurs boutons alignés. C'est-à-dire qu'en fait, les boutons sont restés, l'habit a pourri. De la vaisselle européenne, mais aussi de la vaisselle asiatique qui avait été achetée à Macao. Les pipentaires classiques des marins, des clous en fer, des clous en bronze qui nous posent problème parce que ces clous ont été utilisés pendant tout le 18e, 19e siècle. Et donc, on ne sait pas si ces clous ont été amenés par les marins de la Boussole et l'Astrolabe ou alors s'ils ont été amenés plus tard. Et puis, des petits morceaux d'instruments comme cette petite coulisse ici, ce petit coulisseau. Ces objets, quand on essaye de les mettre sur un plan, ils nous montrent que le camp, c'était un endroit très organisé. Hein. Vous voyez ici, vous avez un plan schématique de la partie centrale du camp. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que toutes les pierres à fusil, les balles, les quelques petits morceaux de fusil qu'on a pu retrouver, ils sont tous dans cette zone-là. Ici, en jaune, vous avez les instruments, ces morceaux d'instruments de bronze ou de cuivre, le chandelier, etc. C'est aussi ici qu'on a trouvé le pied du roi et le petit canon de méridienne. Dans cette zone-là, que de la porcelaine et beaucoup de verre et de céramique par ici. Donc, en voyant ce plan, on imagine tout de suite, malgré les fouilles sauvages du 19e, on voit bien qu'on a affaire à un endroit organisé, probablement une pièce, une petite maison avec une zone pour l'armurerie, un endroit où on met la vaisselle, peut-être un bureau avec des instruments dessus, etc. Cette information que les fouilles nous ont fournie m'a amené à émettre l'hypothèse que ce que nous avions trouvé, ce n'était pas le camp des survivants tel qu'on l'imaginait, c'est-à-dire ce n'est pas ce camp où une cinquantaine, voire une centaine d'hommes provenant de l'Astrolabe auraient pu s'installer pour construire un bateau de secours, etc., mais plutôt l'endroit où ont vécu ces deux derniers survivants dont toutes les traditions attestent la présence. Donc, que sont devenus ces marins de la Pérouse après toutes ces recherches? La première hypothèse, c'est qu'ils ont vécu sur l'Astrolabe. L'Astrolabe, je vous l'ai dit, c'était encastré dans le récif. Elle était encastrée, donc elle était plus manœuvrable, elle était à l'état d'épave, probablement avec de l'eau dans les fonds. Mais comme elle avait 5 mètres de tirant d'eau, elle devait tenir sur ce récif, ils ont pu la soutenir. Et quand on y réfléchit bien, c'était quand même l'endroit idéal pour continuer à vivre. Idéal parce que c'était un endroit qu'ils pouvaient protéger facilement. Ils avaient toujours les canons à bord, ils avaient évidemment tout le matériel, ils avaient la nourriture, etc. Et puis, important aussi, parce que c'est un endroit qu'ils ne pouvaient pas laisser sans surveillance. Donc, première hypothèse, ils restent sur ce bateau. Ils arment un bateau de secours. Ils avaient beaucoup de bateaux. Ils avaient des baleinières, ils avaient des embarcations plus petites, etc. On a dénombré, en reprenant les inventaires, qu'il y avait au moins sur l'Astrolabe, il pouvait rester plus d'une dizaine de ces petites embarcations quand ils sont arrivés à Vanikoro. Donc, ils arment un de ces bateaux de secours. Et il y a un premier groupe qui part très rapidement de Vanikoro pour aller chercher du secours. Deuxième hypothèse, donc qui suit la première, quelques marins quittent Vanikoro très rapidement, les autres sont massacrés directement. Hein, ce qui expliquerait pourquoi on a une petite maison pour deux survivants et pas un grand camp avec encore beaucoup de choses dedans. L'hypothèse 3, il y a moins de survivants que ce que suggèrent les témoignages oraux. D'après les témoignages, on imagine que tous les gens de l'Astrolabe ont pu aller à terre. Tous les gens de l'Astrolabe, ça représente une centaine de personnes. Même en pensant que dans les premiers jours, du fait du traumatisme, etc., il y en a une trentaine qui disparaissent, il reste quand même 70 personnes. C'est beaucoup, 70 personnes. On n'a pas, dans le camp des Français à Payou, on n'a pas la trace de 70 personnes. C'est le fait 1, il y a peu de personnes dans le camp de Payou, donc comme je vous le disais déjà tout à l'heure, probablement la maison des derniers rescapés, et puis on n'a jamais trouvé de tombe à Payou, et donc aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas de tombe à Payou, on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour la trouver s'il y en avait une, donc le dernier des rescapés a terminé sa vie ailleurs. Tout ça, je voulais résumer là, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais ça ne l'est pas. On a deux bateaux, la boussole et l'Astrolabe. La boussole, tout le monde décède, sauf 4 naufragés qui rejoignent Payou. Là, de l'Astrolabe, on sécurise le bateau, on s'installe dessus et on fait des navettes vers Payou. On installe un camp, on monte un chantier naval, un observatoire. C'est tous les instruments qu'on a retrouvés. Ensuite, l'Astrolabe est attaqué. Donc, tous ceux qui peuvent partent. Ils disparaissent dans les Salomons et évidemment le camp de Payou disparaît aussi. Il y a deux survivants qui restent et le camp est plus tard détruit par une crue et le dernier survivant s'en va vivre ailleurs. Voilà. Alors la question, une fois que je vous ai raconté tout ça, La question, c'est est-ce qu'il faut continuer les recherches? Oui, bien sûr, il faut continuer les recherches. On a encore beaucoup de choses à faire à Vanikoro, même si c'est assez compliqué. La première chose, et c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est étudier tout le matériel qui a été retrouvé à terre. Par exemple, je mentionnais ces morceaux d'instruments. On trouve des morceaux d'instruments. On a trouvé plusieurs morceaux d'un grand cercle de Borda. C'est pas un instrument anodin. C'est l'instrument des astronomes. C'est pas un instrument de marine. C'est un instrument qui sert à faire des cartes du ciel. À mesurer la position des étoiles, etc. Donc si on retrouve ça à Terre, c'est qu'à Terre, il y a eu des conditions suffisamment tranquilles pour que des scientifiques puissent y travailler, y étudier. On a aussi beaucoup d'autres petits morceaux d'instruments dont un certain nombre qu'on n'arrive pas à identifier pour l'instant. On pense avoir un des chronomètres de Bertou. Donc ces instruments extrêmement importants, puisqu'ils conservaient en permanence l'heure de la latitude, de la longitude de Paris. Oui, c'est ça, longitude de Paris. Donc, on imagine qu'à Vanikoro, s'ils avaient pu sauver un de ces chronomètres en état de marche, ils auront tout fait pour qu'il continue à marcher le plus longtemps possible, parce que c'était l'assurance de continuer à savoir où ils étaient, savoir où ils étaient tout le temps, y compris au moment où ils voulaient repartir de Vanikoro. Donc, étude du matériel. Ensuite, bien sûr, la question la plus intéressante aujourd'hui à Vanikoro, c'est de savoir où a résidé le dernier blanc. On a des informations. Dans les traditions recueillies par Dillon, un chef lui disait que à la mort de son compagnon, le dernier blanc était parti vivre avec la tribu des Paokori. Et donc, nous, on demandait depuis des années, on demandait aux gens de Vanikoro, on leur disait, mais... connaissez-vous la tribu des Pokori? Est-ce que ça vous dit quelque chose, la tribu des Pokori? Et les gens nous répondaient non, non, non. Et un jour, c'était en... J'ai oublié quand c'était. Je crois que c'était en 2006. Sans qu'on demande rien du tout, il y a un chef qui vient vers nous et qui dit... l'année dernière, il y a des gens qui sont partis se réinstaller là-bas, un petit peu plus loin, là, au village de Pokori, et les femmes, en grattant, ont trouvé de la vaisselle, de la vaisselle comme celle que vous trouvez ici, sur le camp des Français. Et donc je me dis, mais le village de quoi? Il me dit, ben, le village de Pokori. Je dis, Pokori? La tribu des Pokori? Non, non, c'est pas une tribu, c'est un village. Donc on avait posé la mauvaise question. Et donc on a été là-bas, on a trouvé des choses intéressantes. Ce qui pourrait être des aménagements de pierre, un observatoire magnifique, le seul endroit où on voit très bien le sud de la côte ouest et toute la côte sud de l'île, donc vraiment l'endroit idéal pour un naufragé. Il y a visiblement de la porcelaine de Chine qui a été trouvée là-bas aussi, mais malheureusement on n'a pas pu la voir. Les gens de Vanikoro font commerce de ces objets depuis un siècle, et dès qu'ils trouvent quelque chose, ils le vendent au premier bateau qui passe. Donc il y a de très grandes chances de trouver là-bas, donc un petit peu plus loin, des restes des derniers survivants. Ça serait extrêmement important, parce qu'on peut imaginer, si on veut véritablement avoir une chance de trouver des informations sur ce qui s'est passé à Vanikoro après le naufrage, c'est probablement dans la tombe du dernier survivant ou à l'endroit où a vécu le dernier survivant. On peut imaginer que c'est lui qui aura eu à cœur de conserver la mémoire de cette expédition s'il était le dernier. Bien sûr, après ça, il y a les archives australiennes et les collections privées, puisque pendant tout le 19e siècle, donc, ces gens sont venus. La famille MacLeod est en Australie maintenant depuis longtemps. On sait qu'ils ont des objets. Il y a des objets au musée de Sydney. On sait qu'ils viennent de Vanikoro. On ne sait pas qui les a ramenés. On a besoin de travailler dans les archives australiennes. Ça n'a jamais été fait, ou pas beaucoup jusqu'à présent. Et puis, bien sûr, c'est la dernière chose, à mon avis, un dernier objectif aujourd'hui pour continuer à comprendre cette histoire, et pour moi le plus important, c'est de continuer à enquêter sur les traces des naufrages dans les Salomon, parce qu'il est extrêmement probable que des marins sont repartis de Vanikoro et se sont perdus une deuxième fois un petit peu plus loin dans les îles Salomon. Donc, je terminerai là-dessus. Vanikoro, c'est un destin tout à fait particulier pour une île. On voit bien sûr, on voit le côté tragique de la fin de cette expédition et de la mort de tous ces marins, mais il faut aussi essayer de regarder l'histoire de l'autre côté. Cette île qui était absolument inconnue, qui n'avait eu aucun contact avec le monde blanc, s'est retrouvée d'un seul coup en contact avec le monde blanc dans ce qu'il peut y avoir de pire. Des gens désespérés qui étaient prêts à tout pour sauver leur vie, qui n'arrivaient pas dans l'île pour essayer de comprendre comment vivaient les indigènes, mais pour sauver leur peau. Et donc ça a eu des conséquences très importantes sur l'évolution des sociétés dans cette île. On pense bien sûr aux épidémies, à la crainte pour les indigènes, pour qui c'était quelque chose de complètement surnaturel, de complètement impensable, ces gros bateaux, ces blancs qui s'installent, qu'on ne comprend pas, etc., qui n'ont pas du tout la même façon de vivre, qui ont des armes, des objets qu'on ne connaît pas, etc. Après, peu après le naufrage et avant que Dillon et Dumont d'Urville arrivent dans l'île, ça va tourner à leur avantage. C'est que ces ressources en fer, en bronze, en perles, etc., tout ce qu'ils peuvent récupérer dans les épaves, qui ne sont pas très profonds, sur lesquels on peut plonger, tout ce qu'ils vont récupérer, ça va être monnayé. Et en fait, les gens de Vanikoro vont se construire une raison d'être, une économie autour de ce qui touche à la Pérouse. Tous les bateaux qui passeront pendant le 19e demanderont s'il y a des traces de la Pérouse et achèteront quelquefois très cher ces médailles qu'on retrouvait sur les épaves ou à Paillou, des morceaux de les indigènes des autres îles viendront chercher du cuivre, viendront chercher des plaques de bronze ou du fer, etc. à Vanikoro. Donc il va y avoir tout un commerce qui se développe. Au niveau régional, Vanikoro va prendre une place particulière. Les chefs de Vanikoro vont prendre une place particulière simplement parce qu'ils sont les dépositaires d'un trésor qui est convoité par tous les gens des Santa Cruz et autour. La Pérouse, enfin, pour les gens de Vanikoro aujourd'hui, c'est l'ancêtre mythique. 250 ans après, la Pérouse, il fait partie de la vie des habitants. Ils réfèrent toute leur histoire à la Pérouse. Il y a un avant la Pérouse et un après la Pérouse. L'avant la Pérouse, on ne s'en rappelle plus. L'après la Pérouse, c'est leur histoire. Et donc, il va y avoir des monuments qui seront érigés par les Européens de passage et qui seront entretenus par les locaux. Mais l'arrivée de ce La Pérouse et cet ancêtre mythique, ça va leur poser beaucoup de problèmes parce que ça va amener beaucoup de blancs qui vont à leur tour causer des problèmes dans l'île avec beaucoup d'épidémies. Les premières épidémies, on le sait maintenant, c'est Dumont d'Urville qui les a amenées. Il y a deux villages que Dumont d'Urville décrit avec qui il a des relations parce qu'ils sont près du mouillage, il discute avec les chefs, il va visiter les cases, etc. Ces deux villages, 10 ans après le passage du Mont d'Urville, n'existent plus. Et jusqu'à aujourd'hui, ces villages qui sont très bien situés dans des endroits qui sont vraiment agréables de Vanikoro, ces deux villages jusqu'à aujourd'hui ne sont pas repeuplés. Et j'ai visité ces villages. J'ai demandé pourquoi les gens ne s'installaient pas dans ces endroits qui étaient magnifiques, et ils me répondent ces endroits sont maudits. Il y a eu une sorcellerie dans cette zone-là. Les gens sont tous morts d'un seul coup, et on n'y va pas. Si on y va, on va mourir. Voilà. Donc, pour la société actuelle, maintenant, Vanikoro, c'est l'île de la Pérouse. Je vous disais que la Pérouse était l'ancêtre mythique. Vous voyez à Paillou. Paillou aujourd'hui c'est le village des Français, officiellement c'est le village des Français. Tout le monde se réfère à la Pérouse et c'est la connaissance de l'histoire de la Pérouse ou la connaissance des secrets qu'il y aurait sur l'histoire de la Pérouse qui permet aux gens de justifier de leur droit sur les terres de l'île. En ce moment on recommence à exploiter le kaori à Vanikoro. Ce sont des Tikopiens qui ont obtenu les royalties de l'exploitation du kaori parce qu'ils ont réussi à démontrer devant un tribunal qu'ils savaient plus qu'ils en savaient plus sur la Pérouse, dans cette zone-là, que les Mélanésiens. Voilà, voilà, voilà donc pour la fin de l'histoire de la Pérouse. Merci.
C'était Jean-Christophe Galipeau qui nous emmenait donc sur les traces de la Pérouse. Merci à lui. Pour assister à la prochaine conférence de l'IRD dans ce cycle des îles laboratoires, rendez-vous à l'Alcazar le 18 janvier à 17h. Nous retrouverons le géographe Emmanuel Grégoire autour des savoirs et mondialisation à l'île Maurice. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conférences de l'IRD sur le site radiogrenouille.com. Bonne journée à vous. Maman.